Chapitre 4. Février-juillet 1965. La résidence qu'avait trouvée Jocelyne était une grande bâtisse en briques grises de 2 étages qui se trouvait sur Victoria Road, en plein milieu de plusieurs bâtiments annexes de certains collèges du campus. Les bureaux du laboratoire Cavendish, qui abritaient les membres du groupe de radioastronomie, se trouvaient à moins de 800 mètres de là, ce qui permettait à Jocelyne de se rendre à pied au laboratoire. Les 13 doctorants qui travaillaient à Cavendish étaient tous regroupés dans une vaste pièce unique sous les toits de l'illustre bâtiment. Quant à l'observatoire radioastronomique de Mullard, où le groupe développait ses instruments, il se trouvait sur un ancien terrain militaire près de la gare de Lord's Bridge, à une dizaine de kilomètres du campus, sur la ligne qui reliait Cambridge à Oxford via Bedford. C'était le premier arrêt et on en avait pour à peine un quart d'heure depuis la gare centrale de Cambridge. Anthony Hewish n'avait pas précisé ce détail à Jocelyne, et quand elle découvrit la facilité avec laquelle elle pouvait rejoindre la zone d'observation, elle n'en fut que plus ravie. Elle ne serait pas obligée d'être dépendante d'une automobile pour aller travailler. Jocelyne découvrit très vite le site du MRAO, à peine une semaine après son arrivée à Cavendish. C'était une série de hangars et de bâtiments rudimentaires qui laissaient entrevoir quelques antennes de différentes tailles au-delà des toits en tôle légèrement rouillés. Le lieu avait été inauguré 8 ans plus tôt, mais faisait penser à une vieille ferme délaissée, avec des herbes folles qui couraient un peu partout. Anthony Hewish, accompagné de John Pilkington, l'avait emmené dans sa Morris 1100 pour lui montrer tout de suite quel serait son terrain de jeu pour les 3 prochaines années. Pendant le trajet, il racontait qu'il était là lors de l'inauguration de l'observatoire, 8 ans plus tôt, par Sir Edward Appleton, en personne, le patron du département de la recherche scientifique et industrielle durant la guerre et un peu après, et surtout récipiendaire du prix Nobel en 1947 pour ses contributions à la connaissance de l'ionosphère durant les années 20. C'était le 27 juillet 1957. Un des patrons de la Mullard Limited était là aussi. La compagnie avait généreusement donné 100 000 livres pour la construction des infrastructures de l'observatoire, en échange de pouvoir poser son nom sur la plaque devant le grand portail. En réalité, on soupçonnait le ministère de la Recherche d'avoir fortement incité Mullard à participer à la reconstruction de la grandeur de la science britannique, contre d'autres avantages. Un peu plus de 2 mois plus tard, une première antenne rudimentaire avait été installée et avait permis de détecter les signaux du premier satellite artificiel soviétique, Sputnik. La zone dédiée à l'Interplanetary Scintillation Array se trouvait à l'extrémité sud du site, à environ 500 mètres de la gare, qui marquait également l'entrée pour les véhicules à pneus. Hewish avait conçu le réseau d'antennes avec John Pilkington et l'ingénieur Robin Collins. Ils avaient imaginé développer un ensemble de 2048 antennes sur 16 000 m² qui resteraient fixes, mais qui pourraient scanner une grande partie du ciel grâce à un phasage électronique. Hewish expliquait son concept à Jocelyne qui n'en perdait pas une miette. On devrait pouvoir exploiter 14 faisceaux simultanément, ce qui permettrait de scanner le ciel de l'hémisphère nord en une journée. La fréquence radio prévue était de 81,5 MHz, très précisément, ce qui faisait une longueur d'onde de 3,68 mètres. Hewish avait réalisé qu'un grand réseau à basse fréquence, dédié à la mesure des scintillations de sources radio compactes, offrirait un nouvel outil très intéressant pour l'étude des quasars, puisqu'il permettrait d'une part d'en découvrir beaucoup plus, et d'autre part d'estimer leur taille angulaire. Et cerise sur le gâteau, la structure et la vitesse du vent solaire pourraient être déterminées. Il avait reçu une subvention d'un peu plus de 17 000 livres du ministère britannique de la recherche scientifique et industrielle pour construire sa nouvelle antenne. Le radiotélescope permettrait de cartographier l'ensemble du ciel pour étudier la variation des scintillations des sources en fonction de l'élongation solaire. Ewish poursuivait ses explications alors que John Pilkington s'affairait à chercher des choses dans des caisses qui étaient entassées dans un coin du hangar. Un aspect essentiel du réseau était qu'il devait être possible de mesurer les scintillations fractionnaires des sources radio en temps réel. La résolution temporelle qu'on devait atteindre était de 0,1 seconde seulement. Cette haute résolution temporelle distinguerait l'IPSA des nombreux autres radiotélescopes existants, des variations aussi rapides n'étant pas attendues dans des objets astrophysiques normalement. Mais le phénomène de scintillation des ondes radio était très rapide et il fallait le caractériser le mieux possible. Jocelyn suivait Ewish, qui avait commencé à arpenter le terrain herbeux en parlant. C'était Anthony Ewish qui avait observé pour la première fois le phénomène de scintillation des ondes radio, 14 ans plus tôt, en 1951. La scintillation ionosphérique, qui était une modification rapide des ondes radio dues aux structures à petite échelle de l'ionosphère, avait été un peu mieux caractérisée par son équipe 3 ans plus tard, lors d'observations d'irrégularités dans le rayonnement d'une source radio dans la constellation du Taureau. Et c'est en 1964 que Ewish, associé à Paul Scott et Daniel Willis, avait détecté des fluctuations très inhabituelles alors qu'ils effectuaient des observations astrométriques de plusieurs sources d'ondes radio à l'aide d'un interféromètre. Ils avaient alors émis l'idée que ces fluctuations provenaient d'irrégularités dans la densité du plasma associé au vent solaire. Ils avaient nommé ce phénomène la scintillation interplanétaire. Pour exploiter cette scintillation pour l'étude des quasars, Ewish et Pilkington avaient imaginé un réseau rectangulaire formé de 16 rangées de 128 dipôles chacune. Chaque rangée devait mesurer 470 mètres de longueur dans la direction est-ouest et était séparée de la suivante par moins de 3 mètres pour former une largeur totale de 45 mètres dans la direction nord-sud. Jocelyn écoutait attentivement en essayant d'engranger le maximum d'informations pour éviter de devoir aller redemander des choses banales plus tard et passer pour une idiote. Ewish faisait des grands moulinets avec ses bras devant la prairie qui allait servir de terrain de jeu à Jocelyn et à quelques techniciens. La surface faisait l'équivalent de 57 courts de tennis. C'était vraiment très vaste. Ewish précisa qu'il n'y avait pas de village à proximité immédiate de Lord's Bridge. Rien pour se restaurer à midi ou le soir. Quand on venait pour la journée, il fallait prévoir un ravitaillement. Le village le plus proche, Arlton, se trouvait à 2 km vers le sud. En apprenant ça, Jocelyn se dit que ce serait peut-être pertinent d'apporter un vélo sur le site pour pouvoir aller rapidement dans le village ou celui d'à côté en cas de besoin. Visiblement, les collègues d'Anthony Ewish n'avaient jamais eu une telle idée, plus habitués à se déplacer en automobile. La maison sur Victoria Road était très agréable. Jocelyn logeait dans un petit appartement situé au premier étage. On y accédait directement à partir de la porte qui donnait sur la rue. 4 locataires, 2 par palier, se partageaient la même adresse. Sans surprise, c'était 4 étudiantes du campus. Jocelyn fit connaissance avec sa voisine de palier dès le jour de son arrivée. La propriétaire, Miss Crumble, tenait à faire elle-même l'inventaire pour les nouvelles arrivées. Elle ne louait qu'à des jeunes filles, estimant qu'elles étaient beaucoup plus sérieuses que les étudiants. Au moment où Miss Crumble, précédant Jocelyn dans l'escalier, arrivait devant la porte de l'appartement, l'autre porte, située en face, s'ouvrit lentement, faisant apparaître Jane, qui s'avança aussitôt. « Bonjour, Miss Crumble !»« Bonjour, Miss Wilde, comment allez-vous ? Très bien, merci. Nous avons une nouvelle locataire. Oui, voici Miss Bell qui étudie l'astronomie. L'astronomie, tiens donc. Bonjour, lança Jocelyne une fois arrivée à la dernière marche. Miss Crumble, je voulais vous informer d'une chose, mais ça peut attendre que vous ayez fini avec Miss Bell, dit la jeune fille blonde qui devait avoir 1 ou 2 ans de moins que Jocelyne. Je suis à vous dans 15 minutes, ça vous ira, répondit la sexagénaire. Oui, parfait. Il y avait 2 pièces, meublées. Une grande pièce où se trouvait tout le nécessaire pour cuisiner, dans le fond à droite, derrière la fenêtre qui donnait sur la rue. Un petit fauteuil agrémentait l'autre coin de la grande pièce, posé à côté d'une grande table rectangulaire qui faisait face à une étagère qui montait le long du mur, presque jusqu'au plafond. Les autres murs de briques grises étaient décorés de gravures représentant des paysages montagneux. Le sol était formé de dalles céramiques, très faciles à laver. La gazinière servait aussi de chauffage, ce qui était très pratique. La petite pièce n'était rien d'autre que la chambre, qui ne laissait pas beaucoup d'espace autour du grand lit qui paraissait plus confortable que ce que Jocelyne avait connu à l'internat à Glasgow. Une grande armoire munie d'un large miroir était judicieusement placée dans le coin opposé à la porte, de façon à conserver la possibilité de faire le tour du lit. Miss Crumble proposa à Jocelyne de lui fournir tout le linge de maison. Jocelyne accepta la proposition, d'autant que le supplément sur le loyer était dérisoire. Une dernière porte, sur la droite de la porte d'entrée, cachait une minuscule pièce un peu sombre qui arborait le nécessaire de toilette. Après lui avoir montré quelques détails sur les serrures et les volets, et lui avoir donné les horaires du laitier et les dates des éboueurs, Miss Crumble, dans un geste à la fois solennel et désuet, remit son trousseau de clés à Jocelyne. Il y en avait 2 différentes, dédoublées. La première ouvrait la porte de la maison et la seconde la porte de l'appartement. Pour la première fois de sa vie, Jocelyne se sentait vraiment chez elle. Pour se rendre au laboratoire Cavendish, il y en avait pour 20 minutes à pied, qui faisait traverser la Cam River par la passerelle pour piétons qui débouchait sur le parc qui entourait le Jesus College. Puis on contournait St. John's College, on continuait en longeant Trinity College et King's College. Le vieux bâtiment de la façade sculptée était là, sur Free School Lane, en plein centre de la ville universitaire. D'illustres physiciens avaient arpenté ces pavés depuis maintenant près d'un siècle. C'est ici que Joseph Thomson avait mis au point son tube cathodique qui permit la découverte de l'électron en 1897. Et pendant près de 20 ans, le laboratoire fut dirigé par Ernest Rutherford, père de la physique nucléaire et prix Nobel en 1908 pour la découverte du rayonnement alpha. D'autres prix Nobel furent décernés avant-guerre à des physiciens de Cavendish. William Bragg en 1915 pour la diffractométrie des rayons X. Francis Aston en 1922 pour l'invention du spectrographe. Charles Wilson en 1927 pour la construction de la première chambre à brouillard permettant de visualiser la trajectoire des particules subatomiques. Et James Chadwick en 1935 pour la découverte du neutron, 3 ans plus tôt. Et encore, très récemment, en 1962, 2 physiologistes qui avaient utilisé des méthodes de diffraction de rayons X en 1953 avaient reçu le fameux prix pour leur découverte de la structure moléculaire de l'ADN. Mais Watson et Crick n'avaient pas obtenu le prix Nobel de physique ou de chimie comme leurs illustres prédécesseurs, mais celui de physiologie et médecine. Jocelyne était émue à chaque fois qu'elle passait sous le grand porche d'entrée du laboratoire. Le printemps était arrivé et avec lui les premiers câbles et tubes d'acier qui venaient d'être livrés à Lord's Bridge par le train. Jocelyne avait acheté un vélo d'occasion dans une brocante à Cambridge et était venue avec à Lord's Bridge par un jour de beau temps pour le laisser sur place et pouvoir ensuite se déplacer facilement aux alentours, comme ce qu'elle avait imaginé lors de sa première visite. Elle avait parcouru la dizaine de kilomètres en un peu plus d'une demi-heure, en empruntant la A603 qui traversait Barton à mi-chemin. Pour commencer l'installation du réseau, Ewish et Pilkington avaient demandé à Robin Collins, le technicien radio du groupe, d'assister Jocelyn. Ce matin-là, il était venu en voiture pour pouvoir ramener Jocelyn après le dernier train qui était à 17h50. Ils avaient prévu d'installer les antennes rangée après rangée. Comme il y en avait 16 à mettre en place, Robin avait proposé à Jocelyn de mesurer le temps qu'il prendrait pour l'installation de la première rangée de 128 dipôles sur la longueur de 470 mètres, afin d'estimer approximativement à quelle date le réseau pourrait être mis en service, s'il n'y avait pas d'imprévu entre-temps. On était le 16 mai. Le chronomètre était lancé. Jocelyn voulait aller le plus vite possible pour avoir le plus de temps ensuite pour exploiter les données recueillies par le réseau. 4 ans, c'était court, et elle voyait bien quelle était l'ampleur de la tâche face à cette prairie qui commençait sérieusement à être envahie par les hautes herbes. « Il va falloir qu'on tonde la surface !» lança Jocelyn. « Au moins pour la première rangée, est-ce qu'on a une tondeuse ?»« Oh, on a mieux que ça !» sourit Robin. « À Harlton, il y a des fermes !» Et en quoi c'est mieux? Ils ont des engins agricoles qui peuvent nous tondre tout ça ? » demanda Jocelyn. « Ah ouais, des sacrés engins agricoles !» Robin riait. « Tu vas voir de quoi ils sont capables dans un minimum de temps !» Jocelyn ne comprenait pas pourquoi Robin rigolait en parlant des tracteurs. « On peut embaucher un fermier pour qu'il nous fasse ça rapidement ?»« Ah, mais c'est gratuit !»« Gratuit ? Et comment ça ?» « Bah, c'est nous qui fournissons la matière première avec toute cette bonne herbe bien grasse !» Jocelyn était perplexe face à la réponse de Robin. Elle transportait des petites caisses qui contenaient des dipôles avec leurs câbles de connexion. Il en fallait 128 rien que pour la première rangée. On devait les visser sur un support qui lui-même devait être fixé solidement dans le sol, une tige d'acier qui était tenue de part et d'autre par des fils métalliques. Après un court silence, Robin se tourna vers elle et dit « C'est des moutons ! Il y a 2 fermes là-bas qui ont chacune un grand troupeau, et ils sont toujours à la recherche de prairies pour faire paître leurs bêtes à cette saison. Si on leur propose, ils seront ravis !»« Ah, c'est ça les engins agricoles !» Jocelyn souriait enfin. « Je comprends maintenant. Et il n'y a pas de risque qu'ils abîment les piquets une fois qu'ils seront installés ?» Non, on n'a jamais eu ce genre de problème jusqu'ici. On les a utilisés déjà plusieurs fois hein, pour dégager le tour de la grande antenne là-bas, derrière. C'est Martin Ryle, en personne, hein, qui a eu l'idée des moutons, dès le départ, quand il a trouvé le site il y a 10 ans. Il savait combien il pouvait être efficace, parce qu'il vient d'une famille de fermiers, répondit Robin. Martin Ryle était le chef du groupe de radioastronomie du laboratoire de Cavendish. C'est lui qui avait apporté cette activité de recherche à Cambridge après avoir travaillé d'arrache-pied dans le développement des radars durant la guerre. Avec Bernard Lovell et Anthony Ewish, il formait le trio d'experts de la radioastronomie britannique. Mais Lovell n'avait pas suivi ses compères à Cambridge après la guerre et avait préféré se retirer dans le Cheshire pour y fonder l'observatoire de Jodrell Bank et le plus grand radiotélescope orientable du monde. Je sais maintenant à peu près quand est-ce que je vais commencer à vraiment faire de la science. Pourquoi tu n'en fais pas déjà ? Demanda Jane. « Si, enfin, pas vraiment. Je suis en train de construire l'instrument avec lequel je vais pouvoir faire de la science, en fait. Et c'est très long. Hein. C'est ce qu'on appelle un radiotélescope. Et alors, ça sera quand ? Eh bien, on vient de finir le premier morceau. Et on a mis exactement 49 jours. Et on a 16 morceaux identiques à installer. On a commencé mi-mai. Et donc, ça veut dire qu'on devrait avoir fini l'installation en juillet 1967. Ah, effectivement, dans 2 ans ! Ah, tu as bien du courage ! C'est le travail. Et puis, on est à l'extérieur, c'est agréable. Même quand il pleut ou quand on est au milieu des moutons. Jocelyne avait très vite noué des liens d'amitié avec sa voisine de palier. Elle avait un an de moins qu'elle et était étudiante en linguistique. Elle l'avait impressionnée quand elle lui avait prouvé qu'elle parlait six langues différentes: anglais, allemand, espagnol, français, russe et italien. Elle se retrouvait souvent le soir en semaine ou le samedi lorsqu'elles allaient faire le marché ensemble. Mon fiancé, lui, n'a pas ce genre de problème de durée pour sa thèse. Ah, mais tu ne m'avais pas dit! Ça y est! Félicitations! Il faudra me le présenter. Il fait une thèse dans quel domaine, ce jeune homme? Demanda Jocelyne. C'est pas très éloigné de ce que tu fais, tu sais. Ah bon? Il est aussi dans l'astronomie, ici à Cambridge, et je le connais? Je ne crois pas que tu le connaisses. En tout cas, lui, il ne te connaît pas, je lui ai demandé. Il travaille à Trinity College avec le professeur Dennis Sciama. Il fait de la physique théorique appliquée au cosmos, d'après ce que j'ai pu comprendre. Bref, il travaille uniquement avec une feuille et un crayon, ou avec une craie et un tableau. Il a tout le temps qu'il veut, et parfois il travaille encore quand on se voit. Tu vois que ça a des côtés négatifs aussi. Et alors, vous avez déjà prévu une date de mariage? Demanda Jocelyne. Stéphane voudrait qu'on le fasse le plus vite possible, avant la fin de l'été. Il est très pressé, hein, mais je pense que c'est mieux en septembre. De toute façon, c'est moi qui décide, ajouta Jane en plissant les yeux. Tu as bien raison, répliqua Jocelyne. C'est moi aussi qui déciderai le jour où ça sera mon tour. Ça veut aussi dire que je vais bientôt quitter la maison, avant le mariage, certainement d'ici à la fin du mois d'août. Et je vais déroger un peu à la règle de Miss Crumble. Stephen va venir par moment. Le week-end prochain, tiens, tu pourras le rencontrer et vous aurez même le droit de parler d'astrophysique, même si je n'y comprends pas grand-chose. Ah, ça sera avec plaisir de rencontrer ton futur mari. Oh, ça fait tout bizarre de dire ça, répondit Jocelyne. Ah, moi aussi, ça me fait bizarre, comme le fait de changer de nom. Tu as devant toi la future Mrs. Jane Hawking.